Je veux lire juste une petite, la petite lettre de Clément Stodou, là, dont vous avez l'image derrière, et qui est un petit peu la fondatrice de tout ce mouvement où on demande où l'Esprit Saint, Dieu, demande que les chrétiens prennent la Vierge Marie, l'Immaculée, dans leur maison. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, ça. Nous, on commence comme ça, nous avons tous commencé comme ça. Pour ce qui nous concerne, on prend l'Immaculée dans notre maison, et c'est elle qui tient la place principale. C'est parti, c'est pas tout à fait la même chose. Elle disait ceci à propos du carême, parce que c'est pour faire la différence avec le ramadan. Hein. C'est parti, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'ai pas connu Mme Clémence Ledoux, donc je ne pourrais pas l'imiter, dire, raconter des petites histoires, mais c'est pas la peine. Hein. Mais enfin, il faut savoir quand même que la Vierge venait la visiter, hein, donc probablement, ça vient pas de Clémence Ledoux, quoi, on va se venir voir. Enfin, on n'est pas sûr, mais... On a reçu les cendres. Il n'y a que l'autre qui compte pour moi. C'est trop bizarre, ça. C'est la différence entre les gens malheureux et les gens qui ont compris la béatitude, la fin, l'amour, l'éternité, la gloire, la pureté, la limpidité, la sainteté. C'est la différence entre les deux. Ceux qui ont accepté de garder la poussière, et il y a ceux qui vont vivre avec rien. L'amour veut trouver en chacun de vous sa consolation et un instrument de sa grâce. Profitez de ce carême pour vous remettre plus généreusement à l'œuvre de votre sanctification. Et pour cela, faites porter votre premier effort sur la prière. C'est évident, premier effort. Et quand on dit qu'on doit faire un premier effort sur la prière, pour le carême, j'entendrai prier pour nous, alors si on doit faire un effort sur la prière, ça veut dire, à propos du carême, c'est une prière qui correspond à l'union à Dieu. Et l'union à Dieu, c'est pas tellement la prière répétitive. Vous voyez, on dit par exemple, on s'arrête, on lit des lignes de prière, on fait des neuvaines, c'est pas ça, c'est pas cette prière-là. La prière du carême, c'est la prière de l'union à Dieu. C'est un temps, c'est le temps, comme dit la liturgie de l'Église apostolique, catholique, celle qui est universelle. La prière du Seigneur Dieu. L'union à Dieu, c'est ce qui fait qu'on est tout le temps en présence de Dieu. Le temps du carême, c'est le temps où, dans toute la période liturgique, on reçoit du Saint-Esprit le plus de grâce de sanctification. C'est l'Église qui a décidé ça. Vous savez bien que Jésus a obtenu tous les mérites, etc. C'est l'Église qui décide le degré, vous allez dire, du débit, des grâces de puriste, quoi. De sanctification, quoi. Bon, l'union à Dieu. Et l'union à Dieu, bon, on peut apprendre que c'est l'union à Dieu. L'union à Dieu, la prière simple. On est tout le temps, Dieu est là. On n'est pas forcément en train de causer avec lui, mais il est là. C'est ça. On est tout le temps. On n'est pas. Dieu, on est tout le temps. Jésus, on est tout le temps. Bon, même, tu peux faire la vaisselle, tu peux répondre au téléphone, tout ce que tu veux, hein, tu peux aller à l'école et tout ça, hein, d'accord. Bon, bien sûr, je pense à mon cours d'histoire, ou, tu vois, mais, et j'y pense bien, mais une fois que mon cours d'histoire est terminé, que mon coup de téléphone est terminé, je repose, je m'aperçois que, c'est à ce moment-là que je m'aperçois que je n'ai pas quitté je suis. C'est ça l'union à Dieu. On ne s'aperçoit pas qu'on est dans l'union à Dieu pendant qu'on est, on s'aperçoit un moment où on passe d'une activité à une autre. C'est à ce moment-là qu'on s'en rend compte. Donc, l'union à Dieu n'est pas sensible. L'union à Dieu, c'est une union qu'on peut repérer facilement, justement, au moment du changement d'activité. Comment on s'aperçoit qu'on n'a pas quitté le bon Dieu. Et lorsque on quitte le bon Dieu, et bien c'est là qu'on s'en rend compte. C'est très curieux, ça. Vous savez, quand les moines font, se confessent, on dit, oh, mon père, moi je me confesse, je me confesse tous les 15 jours. Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait, c'est bon. Et c'est évident, parce que quand on fait quelque chose, il y a des choses qu'on fait, parce que quelquefois, vous convenez ou non, on quitte l'union à Dieu, c'est tout. Mais alors là, il faut le faire, on arrache volontairement. Parce que c'est un acte formel, pécagneux, je veux dire moral. Mais on quitte l'union à Dieu. Ça c'est le, voilà, le premier effort, c'est ça, tu vois, bon. On est là, on s'est plongé dans le cœur de Jésus, Jésus tout pour nous, on sait très bien, bon, on sait qu'on est très 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 faible, ça, tu vois. On sait très très bien qu'on n'est que poussière, on sait très bien que tout ce que la chambre touche, ça le suit. Quand on a mis par la chambre les cheveux blonds au soleil de la petite fille qui est là, c'est devenu sale, hein, du prendre son shampoing le soir. Voilà. On est de la poussière, mais sale, ah, ok. Et c'est ça que Jésus veut, il vient prendre pour des gens. Jésus fait tout pour nous, parce qu'il a aimé ceux qui sont poussières et sans, ceux qui prennent pour quelque chose, c'est pas qu'il ne les aime pas, il les est. Il les déteste. Il déteste les orgueilleux. Il déteste l'orgueil. Il déteste la vantardise. On est des petits, on est des pauvres. On a besoin de ceci et ceci est tout pour nous. Et Jésus nous a fait pour lui. Et puis on est aussi plus des grands. À ce moment-là, il est toujours présent. Et on est là, et tout le temps. Oui. Alors, il y a plusieurs techniques, hein. C'est bien, hein. Il y a plusieurs techniques pour garder l'union à Dieu. Bon, mais qu'est-ce qui m'avait raconté cette histoire? Je vous l'avais dit une fois, peut-être que je me rappelle plus, mais... Il faut plus dire... Tu as fait ta première communion? Bientôt, hein. En tout cas, quand j'ai des petits-enfants, je prépare la première communion, situation. Tu sais, quand tu es à la maison, tu parlais avec tes frères et soeurs, ton père, ta mère, tout ça. Tu dis, ouais, moi j'ai faim. Ça arrive? C'est jamais arrivé? Moi, je dis tout le temps. Qu'est-ce que c'est? Voilà, moi, je dis tout le temps, moi j'ai faim. Tu dis toujours, moi je. Moi je. Oui, non, d'accord, je. Moi, c'est normal, on est tous, on est comme ça. Moi, ça s'écrit comme ça. Moi, je. Alors, souvent, quand j'ai des petits-enfants qui viennent à mon hermitage en disant on vient se préparer pendant 5 jours pour la première communion, j'ai dit, mon petit garçon, ma petite fille, je ne veux plus jamais entendre moi je dans ta bouche. Si tu dis encore moi je, pas de première communion. Et pendant 5 jours, je vérifie, parce que je sais parler, on parle. Moi je termine. Parce que quand on est avec Dieu, c'est les autres qu'on aime, c'est Dieu qu'on aime, c'est l'autre qu'on aime, Nous, on est juste ici, il n'y a plus que Dieu qui prend toute sa place, on est des saints, parce qu'il n'y a que Dieu. Tu vois le truc? Alors, il faut plus dire moins que. Alors, le truc qui est génial, c'est de dire nous. Nous. Ah ben, tu ne peux pas dire aux autres, sinon on va dire, ça y est, celle-là. Mais nous, pourquoi? Parce que Jésus et toi, vous êtes ensemble. L'Immaculé et toi, vous êtes ensemble. Elle ne m'occupe pas. Tu t'es donné complètement à elle. Jésus t'a donné Marie. Dieu t'a donné Jésus. Et par le baptême, eh ben, l'Église, elle t'a donné à Jésus et à Marie. Alors, vous êtes trois. On est trois. Alors, tu dis, bon ben voilà. Le téléphone sonne. Nous allons répondre au téléphone. Ah, j'écoute. Ah, ben j'écoute. Alors, nous écoutons. Bon, si tu dis nous écoutons. Ah bon, le pizza à la maison dans lui. Ah oui. Bon, alors tu dis. Allô? Oui. Mais pas je, d'accord? Nous. Et puis dans ta tête, tu dis, ah, nous allons sortir faire les courses. Et tu sors avec, et puis tu dis avec Marie, avec Dieu, ou avec Dieu, hein? Et nous allons ensemble. Et tu ouvres la porte. Tu laisses d'abord passer l'Immaculée, ensuite Jésus, et ensuite toi. Et hop, tu fais. Ok? Et puis, tu vas dehors avec eux. Tu ne les quittes pas. Alors, un jour, une amie, dans sa famille. Je n'en veux plus une histoire exacte, je dirais. Enfin bon, donc elle sort, elle va vite faire ses cours, elle se précipite, elle prend le bus. Elle dit, bon ben voilà, où est-ce que vous allez maintenant? Oui, c'est ça, vous allez à Monoprix, ça. Bon, j'ai complètement oublié de... Alors, elle a repris le bus inverse, elle est rentrée à la maison, et elle a dit, Marie, excusez-moi, j'ai complètement oublié de vous prendre. Alors, on y va. Et on est repart. Ça, c'est très intéressant. Je veux dire, c'est une petite truc. C'est des petits trucs qui aident, mais c'est pas idiot du tout. Hein, ok, bon. Donc, nous, vérifiez bien. À chaque fois que tu dis moi, je, ça veut dire que c'est foutu pour toi. Dès que tu dis moi, je, ah! Dès que tu dis je, moi, dis-toi bien, aïe! C'est trop tard, hein, c'est la vie. Vite, tu reviens. Et à chaque fois que tu as moi je, c'est comme si quelqu'un faisait un coup de sifflet. Contravention, tu as abandonné ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton Dieu, ton créateur, ton rédempteur, ton sanctificateur, ton glorificateur, ton principe et ta fin. Ok. Alors, donc faites porter votre premier effort sur la prière. Je crois que c'est simple. C'est ça. On ne quitte pas le bon Dieu. La prière, c'est ça. On est ensemble, quoi. La présence mutuelle, c'est ça qu'on appelle l'union, l'union à Dieu. C'est pas tellement la vie contemplative. Hein, par exemple, quand on pénètre dans un mystère, ça, là, c'est la vie contemplative. C'est une prière plus ardente, plus enracinée, etc. Mais qui pénètre dans l'intimité surnaturelle de Dieu. Mais l'union à Dieu, à proprement parler, c'est beaucoup plus naturel. Hein. C'est naturel. C'est pour ça que c'est inhumain de ne pas vivre ça. C'est naturel. Donc il faut bien savoir que si on ne le fait pas, on est un malade. Humainement parlant, philosophiquement parlant. C'est le truc qu'on oublie, ça, mais on est malade. De toute façon, on n'a pas besoin de... C'est pas une révélation, je pense. On est malade. Alors, priez pour que votre volonté soit conforme à la volonté de Dieu, que votre cœur ne s'attache qu'à ses désirs et que votre esprit
se maintiennent dans ces vues. Vous voyez, de l'union à Dieu, on passe à l'union de volonté. L'union de volonté, c'est quand vous êtes là et que ce que vous vivez, vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous vivez parce que c'est trop pénible, parce que c'est trop triste, parce que c'est trop impur, parce que c'est trop haineux, parce que ça vous ronge, parce que l'irascible domine trop, ou l'orgueil, ou je ne sais pas quoi. Et voilà. Et pourtant, vous êtes bien dans l'union avec Dieu. Mais vous n'êtes pas d'accord du tout avec eux. Et pourtant, vous n'arrivez pas à vaincre ça. Ça va ? Bon. Alors, c'est à ce moment-là que vous êtes appelé à l'union de volonté. L'union de volonté, c'est que simplement, il suffit simplement à ce moment-là de s'arrêter et de constater que ça bouillonne là-dedans, avec beaucoup de crabes, de scorpions, etc. Bon. Vous êtes pourri jusqu'à la moelle. Et puis, bon Dieu le veut. Bon Dieu ne veut pas la pourriture, mais il veut que vous subissiez, c'est-à-dire que vous pâtissiez, que vous souffriez ça. Il faut souffrir, c'est ce qu'on appelle une purification, hein, parce que ça, si vous êtes dans l'union à Dieu, ça prouve que ça ne rentre pas, ça prouve que ça sort. Et donc, bon Dieu veut que ça sorte. Alors, j'ai l'union de volonté. L'union de volonté, c'est puisque tu le veux, Seigneur, je le veux. Pas drôle, hein? Mais je suis en union de volonté. Puisque tu le veux. Et alors, vous êtes spectateur par rapport à ce que vous ressentez. L'union de volonté, donc votre intelligence, votre conscience est spectateur, vous dites oh là là, ça va mal, hein? Et puis c'est agréable. Qu'est-ce que tu veux? Alors là, il voit de l'agressivité, la colère, l'amertume, ça. Hop, mais puisque tu le veux, je le veux, ça. C'est quelque chose de très très important de comprendre ce système, que si nous avons la grâce de Dieu en nous. Oui. L'amour veut trouver en chacun de vous sa consolation et un instrument de sa grâce. Et la grâce, elle ne veut qu'une seule chose, c'est augmenter. L'augmentation de la grâce ne peut pas se faire sans le mystère de la souffrance vécue dans l'amour. Vous traduisez par la croix. Alors à ce moment-là, vous sentez la croix. La grâce augmente, mais du coup, tout ce qui était ici, le terrain occupé par la grâce nouvelle, hein, n'est-ce pas ? Eh bien, il faut bien que ça sorte, n'est-ce pas ? Ça sorte. Quand la grâce augmente, ça fait comme ça, vous savez ? Et du coup, ça sort, ça. Or, ici, là où il n'y avait pas la grâce, il y avait l'obscurité, quoi, pour pas dire autre chose. Alors, donc, s'il y avait quelconque infestation, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut exister, bon, eh bien, ça sort. Et donc, ce que vous ressentez, c'est le contraire de la grâce, mais c'est le signe de la grâce. Parce que la grâce vient de la croix. Et la croix est glorieuse, c'est-à-dire elle est victorieuse par elle-même, par une souffrance assumée dans l'amour, de ce que je vis, de la contradiction. Donc, l'union de volonté, j'espère que vous retiendrez ça. Par exemple, vous faites oraison, je vais prier, je rentre dans une église, et paf, je ressens exactement le contraire de ce que je voudrais. Aucune quiétude, aucune saveur, mais alors au contraire, c'est complètement pas possible. Hein? Excellent. Union de volonté immédiatement. Union de volonté. Suspendu à la créateur de Dieu. Dieu veut que vous suivez ça. Pas drôle du tout, pas drôle du tout, pas drôle du tout, pas drôle du tout. Mais super, je suis d'accord. Union de volonté. Principe très important de la vie spirituelle. Hein? prier pour sortir de tous ces rêves et de toutes ces imaginations qui retardent votre progrès spirituel. C'est sûr. C'est sûr. Oh, c'est formidable. Les autres jours, j'ai fait une oraison. J'ai eu des visions. Ah, c'est sûr. Des visions. Des locutions. Des apparitions. Allez. Priez pour devenir humble, obéissant, juste et charitable. C'est pas mal. Ouais. Je me rappelle que quand j'étais à Paris, ça faisait des gros problèmes. Non, j'en ai plus. Hein. Et j'avais été voir un père au Sacré-Cœur de Paris, de Montmartre. Et puis il m'avait vu, il m'a dit, oh là, vous, il faut que vous exorcisez, il n'y a pas de doute. C'est moi. Je ne dirais pas que c'est son nom, parce que j'en ai. Pourquoi vous voulez m'exorciser? Ah si, sinon je vois très bien, vous êtes complètement. Faites un ciel, exorcisez-moi, pas de problème, hein. Je demande pas mieux. Après, comment ça m'exorciser? Et il me dit, comme pénitence, je lui dis, c'est le con, mais en plus, il faut que je fasse une pénitence. Il me dit, à chaque fois, que plusieurs fois par jour, il dit, Seigneur, verse sur moi ton sang précieux, pour que je devienne petit, pauvre, je vous conseille de retenir cette prière, elle est géniale. Vous voyez bien, c'est la troisième étape ici du conseil de Clémence. L'union à Dieu, l'union de volonté, la prière pour recevoir l'humilité. Une fois que, Seigneur, couvre-moi de ton sang précieux pour que je devienne petit, pauvre, humble, prier pour savoir vivre, à ce moment-là, on peut commencer à pouvoir vivre avec les autres, avec les gens, avec ceux qui sont proches de nous. Donc, prier pour savoir vivre avec tous, supporter tous les caractères, tous les tempéraments, arriver à les aimer tous, et à leur faire découvrir où se trouve le véritable bonheur. Ayez foi en l'action de la grâce. En l'action de la grâce. Hein, Séverine, ça vous embauche un coin. Ayez foi en l'action de la grâce. C'est la grâce qui fera tout. C'est pas toi, c'est pas tes efforts, etc. C'est la grâce de Dieu qui fera tout. La grâce, tu comprends? Toujours penser qu'il faut avoir toujours la grâce, très bien, non? Et la grâce, eh bien, Dieu en personne, c'est Jésus, et la grâce en personne, c'est l'Immaculé. C'est la grâce incarnée, pleine de grâce, l'Immaculée Conception. C'est la grâce qui fait tout. Si toi, t'es petit, pauvre, hein, et rien, alors fais confiance dans l'action de la grâce. Ayez foi dans l'action de la grâce, en ce que cette grâce dépose en vous, pour vous faire grandir en amour et en sainteté, pour entraîner, éclairer, conduire les autres sur le chemin de la volonté de Dieu, leur montrer la manière de mettre de l'ordre dans leur vie et de répondre aux vues. Cinquième conseil, cherchez pendant ce carême à ne faire de peine à personne.
Comment est-ce qu'on fait de la peine à quelqu'un? Toujours par la langue. Si vous faites que des gestes, vous ne ferez jamais de peine, même si vous donnez une gifle. Vous donnez une gifle à quelqu'un et c'est ça dépend comment c'est fait, tu vois. Mais, je veux dire, si tu donnes une gifle, quoi, par exemple, le jour de la confirmation, l'évêque m'a donné une gifle, j'étais enchanté. Non, mais sans rigoler, quand un geste ne donne, à proprement parler, un geste ne fait pas de peine. Parce que tu fais un geste, même s'il est violent, ça n'engendre pas la haine, ça engendre la colère, ça engendre la tristesse, ça engendre la violence, ça engendre, si vous voulez, une certaine révolte. Mais on ne peut pas dire que ça fasse de la peine. La parole, c'est de la peine. Oui. La parole, c'est plus profond, c'est plus mental, si vous voulez. La peine, c'est mental. Dès que vous faites des gestes, faites plaisir aux gens. Alors, souvent, vous voulez faire plaisir aux gens, donc vous dites des phrases, vous écrivez des belles lettres, etc. Et puis, à bien regarder, ça leur fait de la peine. Vous ne savez pas pourquoi. Pourtant, vous avez cherché à leur faire plaisir. Mais non, ça leur fait de la peine. C'est terrible. Mais si vous faites des gestes, ça ne fait pas de peine. Curieux, ça. Le carême, c'est tant du silence. Ça, c'est sûr. La garde de la langue. Alors, quand on a découvert ça, c'est tout moi qui vous le dis, n'est-ce pas? Vous avez l'habitude de me voir toujours silencieux, ça. Ah oui, ne faire de peine à personne. Donc, éviter les réflexions désagréables, les piques, les paroles déprimantes, les lamentations continuelles, ne ramenez pas toujours les mêmes histoires, les mêmes souvenirs, ne lassez pas votre entourage par vos conseils, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses là, vos remarques, vos explications interminables, ne relevez pas toujours les faits et gestes des uns et des autres. Ne soulignez pas les défauts, mais plutôt les qualités. Ne créez pas une atmosphère de trouble, d'amertume, de critique. Soyez aimable, délicat, bref, discret, silencieux, posé, toujours prêt au pardon et à l'oubli. C'est idiot, mais c'est très fort. C'est idiot, mais c'est bien, je veux dire. Que chacun des messagers de Marie, Reine Immaculée d'Univers, soit semeur de bien. Tu jettes des petits grains qui ne voient pas. Et ça donne des biens. Une glaneuse de prières et de sacrifices. Et que Marie, Reine Immaculée, dépose en chacun de vous le nécessaire pour une nouvelle croissance dans la foi, l'amour, la confiance et l'abandon. Voilà, petit message comme ça de la petite fondatrice. C'est quand même sur le titre de Marie-Reine de l'association. Quand on se réunit ici, il fallait marquer le pas, marquer le coup. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon début de carême. Je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais c'est sûr, c'est la prière, vous comprenez? Mais c'est un moment, au fond, de purification. C'est un moment de sanctification. Et c'est vrai que l'Église traditionnellement a dit quand on fait des bons dans l'ordre de la sainteté, c'est pendant le carême. C'est là où il y a donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est là où on reçoit le plus de grâce, de changement, de retour, de conversion, mais aussi de sanctification. Bon. Alors, ça, c'est quand même important de le savoir, ça. Parce que, si vous vous êtes dit, je suis dans mes fantasmes, mais j'arrête la défense cet été, c'est sûr que tu auras une barbe. Une vie d'abord homme, ça ne marchera pas. Tu dis ça maintenant, ça ne marchera pas. Ça, c'est sûr. ça ne vient pas du bon Dieu. Mais bon Dieu, cet été, ça ne s'arrêtera pas. Et pendant le carême, ou alors, il faut que tu attendes l'année prochaine. Mais l'année prochaine, ça sera trop tard. Donc, on va mieux faire de suite. Vous voyez ? Alors, bon, la purification. Alors, souvent, on associe matériellement le carême à un jeûne sur la nourriture. Il y a quelque chose de vrai. Il faut diminuer quelque chose dans l'ordre de la nourriture. Je rappelle en tout cas que, au moins, si vous êtes chrétien, vous devez au minimum ne pas prendre de vin et de viande le vendredi de carême, ne pas prendre de... encore moins le vendredi, hein, mais le mercredi décembre suffit. Donc, mais sinon, pour tout le reste, ça c'est le minimum, si vous voulez. C'est pour montrer qu'on est catho, c'est tout. Si vous n'êtes pas catho, vous ne faites pas. Si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous n'êtes pas catho. Point. Mais ça, c'est uniquement extérieur. C'est le fait de faire partie du corps collectif, humain, et religieux, et universel, et mystique de l'Église. Mais le carême, hein, c'est quelque chose qui permet, une occasion qui permet donc de faire qu'il y ait une diminution. Tu prends moins de nourriture, par exemple, tu te gaves moins de cigarettes. Moi, personnellement, désolé, mais je vois pas l'intérêt. Tu remplaces par quoi ? Par rien du tout. Et les moines ont bien compris ça. Et les gens qui font la pub pour ce que les moines, ils prennent en compte bien aussi. Donc, si tu supprimes un petit peu de la nourriture, je veux dire, tu remplaces par quoi ? Par rien du tout. Donc c'est négatif, vous voyez, comme vision, ça. Je crois que le jeûne, pour moi, c'est de supprimer quelque chose pour que Dieu prenne la place. Bon. Alors, quels sont, justement, bon, alors, rapidement, moi, je veux bien vous faire rapidement, mais réfléchissez vous-même, autant que vous pouvez, si vous voulez, parce que vous avez tous décidé peut-être un effort de carême, ça c'est très possible, mais qu'on regarde avec vous, mais voyez bien que vous avez plusieurs puissances, vous avez plusieurs puissances en vous, qui nous donnent des habitudes, captative. J'ai faim. J'ai faim. Le goût. Moi, je vais lui expliquer que c'est un imbécile. La langue. Moi, je vais regarder dans la vitrine, je vais regarder si elle a sur les chaussettes, la concierge. Les yeux. Moi, je vais m'occuper, je vais écouter un petit peu, je vais me détendre, je vais m'éclater, et je vais écouter enfin un petit peu de la musique, hein, histoire qu'on rigole un peu, mais qu'on s'éclate. Oh, à quelques messages, je me suis dit mignon. Moi, je vais rêver un peu, imagination. Je vais rêver un peu. Laisse-moi tranquille, je ne travaille pas aujourd'hui, je pratique la spiritualité de l'horizontale. Oh. Et je rêve. Un petit coup de défense là-dessus, c'est pas mauvais. Ensuite, ma mémoire est une puissance du moi-je. La mémoire, oh là là, qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh là là, quel nombre de malheurs que j'ai eu! Oh là là, que c'est dramatique! Mon Dieu, encore ça! Et qu'est-ce qui va encore m'arriver? Et hier, et demain, et aujourd'hui, et oui, et là, ah là, j'y arriverai jamais. Et si, machin, et je me rappelle plein de trucs, hein, et mes souvenirs, et oh, bon, ah, et il faut absolument que j'ai une guérison de la mémoire. Bon, dans ma mémoire, j'ai plein de trucs idiots! J'ai dans ma mémoire des tonnes de trucs idiots. Pourri. Tous les films que j'ai fumés. Et compagnie, et toutes les curiosités, et tout ça, tout ça, c'est dans ma mémoire, comprenez. Ah, il y a la cogitative. Non, mais ça, je laisse, parce que c'est la cogitative, hein. Déjà, il y a l'intelligence. L'intelligence contemplative, qui est accueil, vous contemplez et vous devenez contemplé. Il y a la volonté, qu'on appelle le corps profond, et il y a le pape dirait, la liberté du corps. La mémoire ontologique. Hein. Voilà, disons rapidement, les puissances du moi. Il y en a d'autres puissances, mais ce n'est pas les puissances du moi. Alors, tout ça, ce sont des trucs qui sont récepteurs, vous comprenez, hein, et conservateurs, surtout la mémoire. On va voir qu'est-ce qu'elle conserve, mémoire sensible. L'intelligence aussi, du point de vue de l'intellect possible, conserve plein de trucs. Alors il faut mettre là-dedans, vous voyez, il faut mettre là-dedans, à mon avis, je pense que c'est ça, un bon carême, un bon jeûne. Il faut faire le jeûne supérieur, c'est ça, il est ici. Et le jeûne inférieur, il est là. Mais il faut toujours commencer par la fin. Quand on aime, on commence toujours par la fin. Si c'est moi, je commence par moi. Alors je commence par le jeûne de la nourriture. Mais si j'aime, je commence par l'autre. Je commence par la fin. Parce que c'est l'autre qui est ma fin. Alors, le premier jeûne qu'on doit faire, il est là. Il faut que je sois libre dans le don et que je retrouve en moi cette innocence. Divinement. C'est l'image à la ressemblance de Dieu, qui tue. Et ça, non pas que de moi, parce que c'est Dieu qui est en moi, Père, c'est Dieu qui est pris, et que ça, c'est le centre de moi-même. Et ça, alors, il n'est plus aucun murmure, plus aucune revendication, plus aucune révolte, la vérité. Et à ce moment-là, je suis libre de me donner à ce don qui m'a été fait de moi-même. Et vous voyez, je retrouve en moi la sainteté. Là, je retrouve cette mémoire ontologique. Je retrouve, si vous voulez, cet élan vers ma vocation, ma prédestination, celle qui m'est donnée de manière toute pure au premier instant de la création. Et je vois. À ce moment-là, tous les obstacles, les agréables peut-être, ne sont plus. Au niveau de la volonté, il faut faire plaisir. Il faut que je fasse plaisir, vous voyez. Il faut faire plaisir, faire plaisir, faire des gestes. Faire des gestes, beaucoup de gestes. Un geste, une fleur, un petit mot, sous la porte de la voisine que j'ai jamais vue, du voisin, qui est ici, dans l'image de la CM, je ne sais pas quoi. Quelque chose, des gestes. Ensuite, vous savez, c'est pas difficile, l'intelligence. Il faut que je remplisse mon intelligence spirituelle contemplative d'autre chose que des sept idéologies athées. Je passe mon temps depuis que je suis né à entendre les sept textes du dragon du chapitre 12 de l'Apocalypse. Cette tête qui crache et blasphème. Et voilà ce que j'ai englouti. Freud. Voilà. Après tout, je viens de m'éclater. Qui crache, prend de coin qu'on capre, etc. Et l'existentialisme. Après tout, je suis libre. Et Nietzsche. Ah ben, après tout, j'ai besoin de créer quelque chose. Le matérialisme dialectique. Très bien. Ah, c'est bon, on ne peut plus dire communisme, non, c'est un marxiste, c'est pas ça. C'est dire le matérialisme dialectique, c'est dire ce qu'il y a de plus permanent, plus solide dans l'homme, la matière. C'est pour ça que les Américains sont beaucoup plus dans le matérialisme dialectique que les Russes. C'est sans comparaison. Ils sont beaucoup plus marxistes que les Russes. Il n'y a qu'en France qu'on n'est pas comme ça, enfin, nous. L'évolutionnisme, il faut faire confiance à la vie. C'est la vie. Il faut faire confiance à la vie, c'est la vie qui... Mais non, tout ce qui se passe, c'est très bien. C'est toi qui compliques les choses avec ton dogme. Avec tes... Tu t'es vu complètement étiqueté, univoque. La vie, ça va bien. Regarde, tout pourri. Et dès que tu vois que la vie refleurit en raison de la grâce, ces gens-là, dès qu'ils voient la vie refleurir en raison de la grâce, ils sont furieux. Pourquoi est-ce que les gens sont furieux quand ils voient la vie de quelqu'un qu'ils connaissent ? Leur fils, leur enfant, leur époux, leur épouse, leur ami. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont évolutionnistes, uniquement. Fallait scandaliser intellectuellement. Pourquoi ? Parce que dans l'évolutionnisme, le principe qui permet à la vie, que je schématise par ce cercle, n'est-ce pas, de perfectionner, se trouve dans la vie elle-même. C'est la vie qui fait que la vie augmente, perfectionne, vérifie, comme ça, plop, plop, pas rien du tout. Faut pas être dingue. Alors, dès qu'on voit quelqu'un qui a du mal dans la vie, c'est bon. Et puis, la grâce arrive. Et sa vie augmente, en effet. Ils sont furieux. Mais vous avez tous dit. Est-ce que c'est parce qu'ils sont contre la grâce? Non, c'est parce qu'ils sont dans la cinquième idéologie athée, l'évolutionnisme. Parce que dans l'évolutionnisme, en tant qu'idéologie, en philosophie, je ne parle pas du fait que l'algue a donné je ne sais pas quoi, je m'en fiche complètement ça. Bon, je parle moi de l'évolutionnisme au sens donc, de philosophique. Donc que la vie a en elle-même son propre principe de croissance. Ce qui est faux. C'est absurde. On voit très bien quand tu mets quelque chose uniquement du point de vue de la vie, ça se fane. La vie n'a pas en elle-même son principe de perfection.
Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui aujourd'hui croient que, par exemple, l'homme descend des directeurs.
Ah oui, alors ça,
voilà. C'est actuellement grave, parce que ça fait partie de la rédemption,
quand même. C'est certain que c'est embêtant. Mais évidemment, non, le problème, c'est ça, c'est que, voilà, la question des origines de l'homme, c'est encore autre chose. Hein? Donc, je ne mélange pas l'évolutionnisme idéologique. Et puis la question des origines de l'homme, donc que tu, un jour une guenon s'est retrouvée, ce bébé il était intelligent. Oui maman. Alors non, crois que c'est pas ça. C'est que d'abord il y a eu l'idéologie, et comme conséquence idéologique, une fois que l'idée est là, elle sert d'hypothèse, d'analyse de l'histoire des origines. Du coup, on va avoir un darwinisme. Mais ça, c'est parce que je prends un principe philosophique comme hypothèse de travail, et du coup je dis, si c'est ça, nécessairement il y a des phénomènes, n'est-ce pas? Alors, si c'est ça, c'est impossible autrement, s'il n'y a pas ce phénomène-là, ce phénomène-là, ce phénomène-là. Alors voilà, il y a tous les phénomènes. Bon, maintenant, trouvons-les. Ah, ça y est, j'en trouve un. Pagne. Le voilà. Alors ça, c'est ceux qui sont en hypothèse, n'est-ce pas? Ah, j'en ai trouvé un. Et grâce à Teilhard de Chardin. C'est l'homme de Pic d'Arme. Ah, super, j'en ai trouvé un autre. L'homme de Totavel. Enfin, je ne sais pas si c'est les meilleurs, hein. Seulement, l'homme de Pildam, la mâchoire, celle d'un chimpanzé, le front, c'est celle d'un homme du XVIIe siècle, et la dent, je ne sais plus laquelle, c'est... Enfin bref, c'est une escroquerie. Le Totavel est escroquerie aussi. Alors, les seuls phénoms existants n'existent plus. Les phénoms manquants, on ne les a toujours pas trouvés. Voilà, c'est intéressant. Au niveau scientifique, plus personne n'ose plus, sérieusement, s'appuyer sur l'histoire des phénomènes manquants. C'est ridicule scientifiquement. Mais moi, je ne parle pas du point de vue scientifique, si tu permets, on n'en sait rien, on n'était pas là. D'accord? Alors, je dis simplement, moi, que au niveau idéologique et philosophique, je dois regarder que la vie n'a pas en elle-même son propre principe de perfection. D'accord? Ce n'est pas votre vie qui fait que vous devenez meilleur. Vous ne trouverez pas dans votre vie des ressources pour devenir meilleur. Vous trouverez ailleurs, vous trouverez dans votre être. Ah, la différence entre l'être et la vie. Vous le trouverez dans votre esprit, parce que votre esprit reçoit autre chose que vous. L'intelligence est contemplative, elle assimile autre chose. C'est le propre de l'intelligence de pouvoir assimiler quelque chose qui lui est supérieur. Donc en raison 1 de l'esprit, 2 de l'être, 3 de la grâce, il y a une croissance vitale de l'homme. C'est 3 possibilités de la croissance. Mais ça ne vient pas des ressources vitales qui sont les nôtres en tant que telles. Ça va? Ça c'est une idéologie philosophique athée. Voilà. Même si je m'appelle Babèche, petit, elles sont horribles, les phoques. Bon. Et c'est curieux, ça, non, mais c'est vrai. C'est quand même très extraordinaire de voir tous ces chiens, c'est ça. Moi, je trouve ça admirable. Vraiment, c'est très. Vous savez, j'aime beaucoup les animaux, c'est bien. Non. Mais c'est quand même, vous savez, 10 mois que tu fréquentes, c'est une vérité. Alors quand même, avant c'était une tare qu'on ne voyait que les Anglais, ça. Mais en Angleterre, tout le monde avait des animaux. Je me rappelle quand j'étais gosse. Mais à cette époque-là, il y a 30 ans, 35 ans, en France, c'est rarissime. Si quelqu'un avait un chien, c'était pour aller à la salle. C'était pas pour avoir un animal. Parce que les animaux de compagnie, en France depuis 30 ans, on est quand même le pays du monde à avoir le plus d'animaux de compagnie à la maison du monde. Dis-moi avec qui tu es, et je te dirai qui tu es. C'est normal, puisque c'est normal. On est devenu taré. Pendant le carême, on n'a plus le droit d'être taré. Il faut être intelligent. C'est-à-dire devenir contemplatif. On est donc d'accord. Et l'intelligence, pour devenir, il faut réfléchir sur ces idéologies et s'en débarrasser. Il faut discerner le degré de profondeur, de la pénétration du phénomène idéologique en nous. Vous voyez bien, là, bon, je vous en ai cité 4-5, mais je peux vous citer les autres, c'est pas un problème.
ça vous intéresse. Et il y a un jour, il faudra qu'on y revienne, parce qu'on avait traité les idéologies, mais c'était là, toi, il y a 7 ans, hein. T'étais pas né encore. Hein? On l'a refait, une fois ou l'autre. Bon, il faut les repérer, vous comprenez ces idéologies. On en est complètement habité. Vous savez bien? Mais si vous dites, oh, de quoi? Il m'emmerde, il m'embête. Le mari et la femme, il m'embête. Je suis libre, quoi. Ça, c'est ça. Ça. Et si vous êtes inspiré, vous dites, tiens, votre conjoint, vos amis, vos parents, je sais pas, voisins, ils dominent, mais il faut que je fasse tout pour les dominer. Il faut quand même que je dois faire quelque chose, créer quelque chose, de mettre ma marque, quoi. Il faut quand même que qu'on arrête de me prendre pour rien du tout, pour une lavasse. Je suis au-dessus. Il faut quand même qu'on arrête de me prendre pour rien que, moins que rien. C'est mieux, c'est ça. Alors du coup, je vais faire ce que je veux. Je vais faire une chose extraordinaire. La peau de peinture. L'horreur. Mais enfin, j'aurais créé quelque chose. Ben, ça peut être sur le plan moral, ça peut être sur le plan. Ça peut être sur une toile, ça peut être sur un ami. Prenez l'ami comme une toile. Et des rapports sadomasochistes qui permettent de montrer qu'on domine. Faire de longs séjours dans la nature. Quelqu'un qui comme ça, qui aille dans une grotte, il prend 5 jours comme ça, 3 jours déjà, c'est pas mal, qui prennent 2 pommes par jour de l'eau, ne t'inquiétez pas, et qui reste dans sa grotte, il sera guéri. Denis, à tout jamais. Mais ça vaut la peine. Denis, ça nous poursuit tout le temps. Alors, quand c'est Freud, eh bien, Freud, c'est la libido, quoi. Ben, quoi, arrête, tu vas être traumatisé. Arrête, complète de castration. Attention, tu vas aller. Oh, bon, voilà. Hein? Pourquoi c'est comme ça? C'est à cause de ton père et ta mère, tu vois pas l'éducation qu'ils t'ont donnée. Regarde ça, castré comme ça. Tu ne vois pas l'éducation que j'ai reçue. Ah ouais, mais toute une seule solution. Faut que je trouve une nouvelle identité, une identité néo-formée. C'est génial cette histoire de libido. Cette libido, finalement, qui est très très proche de la mystique orientale. Parce que, au fond, le centre pour la philosophie analytique, je ne parle pas de Freud seulement, c'est toute la philosophie analytique, Freud, Jung, Reich, Adler, ça, bah, c'est que le centre de sacré, au fond, de l'homme, c'est cette espèce de boule d'énergie, d'où il vient et où il va. Et cette boule d'énergie, elle est partout. C'est la bodéité, si vous voulez. Et cette fameuse bodéité, vous en êtes une étincelle. Et cette étincelle veut se répandre jusque dans le tout. Et vous voyez, et ça, ce qui l'arrête, c'est l'écorce corporelle, et c'est l'instinct sexuel qui permet, notamment, enfin, pas seulement l'instinct sexuel, l'instinct d'éclatement, qui permet à cette libido d'être vous-même, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout du tout. Ah, c'est Freud. toutes les mystiques hindoues, c'est ça. Freud et le bouddhisme, c'est pareil. Hein? Oui, mais c'est un langage médical au niveau d'interprétation, si vous voulez, de la vision, si vous voulez, sur l'homme, au niveau médical, psychologique. Pour lui, il n'existe pas, ça. Hein? Pour lui, l'esprit n'existe pas dans l'homme. Hein? Pour la philosophie analytique, l'esprit n'existe pas. Donc il n'y a aucune possibilité d'extase, aucune possibilité de vie contemplative, aucune possibilité de liberté dans l'ordre du don. Aucune mémoire ontologique, ça c'est évident. C'est pour ça qu'on se rabat finalement sur la mémoire métapsychique. Hein? Ce qu'on avait vu, je crois, l'année dernière, longuement. En comparant l'hindouisme, le samadhi sans racine, avec le point de vue de la mémoire métapsychique. Ça va? Bon. Alors, je crois que c'est quand même très important de repérer les idéologies. Il faut... qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore comme idéologie, là, ceux qui connaissent bien, là, hein? Ah, ben oui, ben, la science. Ah, bon, donc la science. Ben, si, c'est pas la science qui l'a dit, c'est que c'est pas vrai. Ou du moins, la science ne dit pas que c'est comme ça. Donc, c'est pas vrai. Donc, le seul critère de vérité, c'est la science. Or, la science... elle ne peut vérifier les choses que si elle fait des hypothèses. Et une hypothèse, par définition, on ne sait pas si elle est vraie. Donc c'est très embêtant. Autrement dit, impossible de savoir si quelque chose est vrai. En dehors du fait que certains savants disent si c'est vrai ou pas. Alors qu'ils ne peuvent pas le dire, puisque c'est un système hypothétique ou déductif. Vous voyez le truc? Donc ça veut dire qu'on doit croire des gens qui ne peuvent pas se permettre d'avoir autorité pour parler. Et pourtant, il n'y a qu'eux qui peuvent parler. C'est ignoble. En plus, la science opère des systèmes de réflexion et de lecture de la réalité naturelle par des instruments de mesure, par le point de vue de la quantité, dirait le philosophe, et donc elle ne peut pas avoir accès à tout ce qui relève de la qualité et encore moins de la substance. Or, la vérité est de l'ordre de la substance. Donc, quand on croit qu'une chose n'est vraie que si la science le confirme, ça veut dire qu'on pense qu'il n'y a aucune vérité. C'est dramatique. Il faut être bouleversé quand on voit quelqu'un comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont rationalistes. Hein. Et ils ne voient les choses que dans le point de vue de la quantité. Le mesurable. Si c'est quantifiable, quoi. Les systèmes. Ouais. Si tu es positiviste, rationaliste, c'est vrai, tu vas dire, le père Patrick, il m'aime beaucoup plus que tous ceux qui ne vont jamais aimer. Ah ouais? Tu vas dire, il m'aime beaucoup plus, quantité. Regarde, réfléchis bien comment tu vas réfléchir. Ou bien tu vas penser. C'est pas moi qui vais penser à ta place.
Non.
Ou bien tu vas penser, oh, il m'aime d'une manière beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus limpide, beaucoup plus humble, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus profonde, qualité. Ou bien, tu vas dire, l'amour me révèle à moi-même. Alors, tu vois? Alors, tu as pensé comment? T'as rien ressenti, alors. Ouais. Mais tu comprends bien? Tu comprends bien que là, ici, c'est... Ah oui, je reconnais que c'est ça qui est difficile, les mots. Hein? Parce que les mots, on est pauvre en mots aussi. À cause du phénomène idéologique, on a supprimé tous les mots qui concernent le point de vue humain. Tous les mots concerne le point de vue des vertus morales et éthiques, il ne reste plus que les mots positivistes de la science. Bien que toi, parce que tu as connu la télévision, l'image de la bête,
L'image de la bête, elle te donne les sept idéologies athées depuis que tu es né. Tu n'as plus que les mots, là, qui sont là. Donc, pratiquement tous les mots de l'humanité, tu ne les connais plus. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous, on vient ici, pour essayer de garder la mémoire de ces valeurs, de ces qualités, et de l'être même, de Dieu, pour découvrir notre propre être, sur ça, cette sens. C'est important de garder ça, si on veut. Donc, vous voyez, matérialisme, c'est-à-dire le positivisme, c'est important. La science ne peut rien dire. Les savants n'ont aucune autorité. Alors, si. Excusez-moi, les savants ont une autorité dans le domaine de la quantité. Du point de vue de la qualité, posez-leur la question, ils le diront. Et du point de vue de la substance, ils n'ont aucun accès. Si vous voulez lire, si vous intéressez à ces airs, vous avez le manteau du mathématicien de Jacques Vautier, qui vient de sortir, très intéressant. Un livre, un ami à moi, n'est-ce pas ? Écrit en commun, MDP. Le manteau du mathématicien, très intéressant. Très, très intéressant.
Il est facile à lire ou pas ?
Très facile à lire. Facile à lire, oui. Vous voyez, celui qui est le grand spécialiste, c'est un des plus grands pontes de la mathématique française. Il est maître de mathématiques à la Sorbonne, à Paris 2-1. Oh, ça doit être Fayard, je pense.
Comment ?
C'est Fayard, non ?
Je crois que c'est Fayard.
Donc lui, mathématicien, il est là, Marie 2 est là. Et donc ils essaient de voir les points de rencontre. C'est pour ça que finalement il n'y en a pas. Mais lui, il est mathématicien, mais il connaît parfaitement la métaphysique. Mais il fait cette. Ah oui. Alors, il trouve qu'il est il est chrétien, catholique. Il est philosophe, métaphysicien, mais là où il est le plus fort, c'est en mathématiques. Voilà. Tandis que Marido. Il est forcément chrétien, mais là où il est reconnu, c'est en tant que philosophe, et en tant que mathématicien, c'est raté. Non, c'est pas ça, c'est que quand il était jeune, il voulait être mathématicien. Ah, vous avez lu, bon, très bien. Mais, étant donné que le père de Haut, son oncle, a dit, si tu fais des mathématiques, je ne sais plus comment il lui avait dit, je crois que c'est, j'essaie de me tromper, je te maudis. Je ne sais rien, à cette époque-là, il disait je ne sais pas quoi. Oui, ça veut dire que tu t'auto-ramasses. Je prends sur moi que tu tomberas. Bon, quelque chose comme ça. Alors lui, il a dit, ça l'a fait réfléchir. Il a dit, plutôt que de faire mes 3 ans d'études de mathématiques, je rentre tout de suite, quoi. Et du coup, il rentrait chez les Dominicains. Mais il avait toujours rêvé d'être mathématicien. C'était son rêve. Et puis, il est devenu philosophe. Métaphysicien. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres idéologies ? La charité n'impose pas d'aimer tes ennemis. Saint Augustin dit en effet, ce bien éminent, c'est-à-dire l'amour des ennemis, ne se rencontre pas en tous ceux que nous croyons exaucés lorsqu'ils disent dans la prière « Pardonnez-nous nos offenses ». Mais les péchés ne sont remis à personne sans la charité, car il est écrit au proverbe « La charité couvre tous les péchés ». Il n'est donc pas de nécessité de charité d'aimer ses ennemis. Ça vous met pas la puce à l'oreille. Pour la raison suivante, il n'est pas nécessaire et obligatoire d'aimer ses ennemis, sinon la charité détruirait la nature. Or, la grâce,
par laquelle procède la charité surnaturelle, ne détruit pas la nature. Toute chose, même l'être dépourvu de raison, est naturellement ce qui le détruit. Or, l'ennemi détruit. C'est ainsi que le loup déteste l'agneau et l'eau déteste le feu. La charité ne peut pas donc faire que nous aimions la nature. Il est dit, par ailleurs, dans la première épître aux Corinthiens, verset 13, la charité ne fait rien de mal. Or, il est mal, c'est un mal réel, d'aimer ses ennemis comme de haïr ses ennemis, à égalité. C'est pourquoi Joab, dans l'Écriture, lui-même le dit à David, tu aimes ceux qui te haïssent et tu détestes ceux qui t'aiment. Par conséquent, la charité ne peut pas faire que l'on aime ses ennemis. Donc, voyez bien, tous les arguments montrent très intelligents, en disant, qui viennent d'ailleurs des phénomènes idéologiques, ontologistes, etc., existentialistes de l'époque, et puis ensuite, Saint Thomas, ben, il répond, voilà. Cependant, contre tout ce qui est dit ici, le Seigneur dit, aimez vos ennemis. Voilà. Alors, si vous voulez entendre cette expression « aimer ses ennemis », vous devez l'entendre de trois manières différentes. D'abord, dans le sens qu'on les aime en tant qu'ils sont ennemis. C'est parce que c'est mon ennemi que je l'aime. Cela est un péché. Tu ne peux pas aimer quelqu'un parce qu'il est ton ennemi. Parce qu'il te détruit. Puisqu'il me détruit, je l'aime. Ça, ce serait un péché. D'accord ? Cela est mal et répugne à la charité, car ce serait aimer le mal dans l'autre. En deuxième lieu, on peut envisager l'amour des ennemis par égard à leur personne, à leur nature, à leur essence et universellement. De ce point de vue, l'amour des ennemis est de nécessité de charité au contraire. Dans ce sens que celui qui aime Dieu et son prochain comme soi-même ne doit pas exclure de la catholicité, de l'universalité de son amour du prochain, ceux qui sont ses ennemis, qui font partie de tous les autres que Dieu a créés. Enfin, troisièmement, l'amour des ennemis peut être envisagé comme individualité, donc pas les ennemis en général. Alors, aimer ses ennemis en général, là, doit, oui, parce que c'est pas le mal qu'ils te font, c'est parce qu'ils font partie de l'ensemble de l'humanité, et donc ils ont une nature humaine qui est donc respectable, qui a besoin d'être aimée. Mais maintenant, un personnage qui te détruit, c'est ça un ennemi, quelqu'un qui te détruit, qui te fait mal, qui veut supprimer en toi le bien. C'est ça, quelqu'un qui te fait du mal, c'est quelqu'un qui veut supprimer en toi le bien. Si tu es pur, il veut que tu deviennes impur. Si tu es humble, vous voyez bien, si tu es... Bon, j'en passe des meilleurs. Mais, alors, donc, maintenant, au niveau individuel, alors, qu'est-ce qu'il dit ? L'amour des ennemis peut être envisagé donc comme individualisé, particularisé, ou comme un mouvement spécial d'amour que quelqu'un aurait envers son ennemi. Une telle chose n'est pas nécessaire à la charité chrétienne et surnaturelle de façon absolue, parce que il n'est pas nécessaire à cette vertu de charité surnaturelle que nous ayons une direction très spéciale, hein, c'est évident, à l'état de disposition dans l'âme, à l'égard de chacun de nos semblables, quel qu'il soit, ce serait totalement impossible. Et oui, c'est normal, parce que l'amour donc a quelque chose d'exclusif. Donc une direction très spéciale pour quelqu'un, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'ennemi, de tout ce qu'on aime, priorité à ceux qui nous, à ceux qui sont notre bien, hein, notamment. C'est pour ça qu'on aime d'abord Dieu. Toutefois, cette direction spéciale à l'état de disposition, se disposer à l'aimer d'une manière spéciale, si il devient ton bien.
n'est-ce pas ? Donc, à l'état de disposition dans l'âme et de nécessité de charité chrétienne. En ce sens que l'on doit être prêt à aimer un ennemi en particulier si cela devenait nécessaire. Mais en dehors du cas de nécessité, si quelqu'un témoigne par des actes de l'amour qu'il a pour ses ennemis, cela appartiendrait à l'héroïcité de la vertu de charité chrétienne. Ce serait une charité héroïque. Cela appartient à la héroïcité de la vertu de charité chrétienne. En effet, puisque la charité fait aimer le prochain pour Dieu et pas pour lui, plus on aime Dieu, plus on témoigne d'amour au prochain, sans tenir compte du mal qu'il vous fait. Ainsi en est-il lorsqu'on a un grand amour pour un homme en particulier, à cause de cet amour, on se prend à aimer ses enfants, même s'ils sont nos ennemis. Et c'est d'un tel amour que saint Augustin a voulu parler dans la première difficulté, qu'on disait tout à l'heure. Vous pouvez lire dans ce livre intelligent. Saint Thomas, c'est le plus intelligent, c'est le génie de l'Occident. Donc, et en plus, c'est court. Mais là, j'ai pris au hasard, j'aurais dû prendre une question encore plus intéressante. Vous piochez là-dedans, vous pouvez vous ramener. Bon, je termine ici avec ça. L'intelligence. Donc, il faut prendre un livre de lecture, s'il vous plaît, et avoir un chantier de travail pendant les 40 jours, ce serait bien. Un petit chantier. Il faut faire un travail intellectuel. L'abdication de l'intelligence, c'est quelque chose qui relève du suicide au niveau contemplatif, c'est-à-dire au niveau qui fait que l'homme dépasse le point de vue du chat. Il faut faire un travail. Prenez celui que vous voulez. C'est facile. Je vous dis, si vous avez besoin de faire dans l'horizontal, alors vous prenez des cassettes. Bon, la mémoire, la mémoire. Dans notre mémoire, il y a plein de trucs. Si vous voulez faire le jeûne de la mémoire, il me semble que, moi je vous propose, c'est ce que j'avais proposé, il me semble, l'année dernière, mais je vous propose à ceux qui le veulent, prenez un passage de la Bible et vous l'apprenez par cœur. Apprendre par cœur un passage de la Bible, c'est une activité d'amour, du jeûne de la mémoire. Vous comprenez ? Quel homme parmi vous possédant son brebis et perdant l'une d'elles n'abandonne au désert les 99, il va vers la perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. La trouvant, il la met joyeux sur ses épaules et de retour chez lui convoque amis voisins leur disant avec moi réjouissez-vous donc car je l'ai retrouvé ma brebis perdue. En vérité je vous le dis, ainsi sera grand liesse au ciel pour un pécheur qui sera pénitent bien plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Quelle femme aussi possédant 10 drachmes et perdant l'une d'elles n'allume aussitôt sa lampe, ne balaye sa maison jusqu'à ce qu'elle la trouve. La trouvant, elle la met joyeuse dans sa bourse et de retour chez elle, sortant même de chez elle, convoque amis voisines, leur disant avec moi, réjouissez-vous donc, car je l'ai retrouvée. Ma drachme perdue. En vérité, je vous le dis, ainsi sera grandiesse au ciel pour un pécheur qui sera pénitent bien plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin pénitence.
pendant le carême, un texte de la Bible par cœur minimum. Il faut connaître son texte. Vous prenez, je sais pas, ce que vous voulez, un psaume entier, très bien, vous l'apprenez par cœur. Ça doit se faire, c'est la tradition judéo-chrétienne. Vous savez que si vous êtes dans la tradition judéo-chrétienne des fils d'Abraham et que vous ne connaissez pas par cœur un texte, une partie au moins, normalement une très grande partie de la Bible, vous ne faites pas partie du peuple de Dieu. Vous n'en faites pas partie. Vous n'en faites partie que si vous connaissez par cœur et que vous êtes capable de lire la parole de Dieu en vous et de la répéter. C'est ça, c'est le peuple de la mémoire. Et dans le carême, dans ce grand montée, il faut que la parole de Dieu soit inscrite dans nos puissances. C'est évident. Donc, s'il vous plaît, vous ferez passer les cigarettes après. M'en fous des cigarettes. Vous avez des angoisses pour les cigarettes, c'est tout, c'est comme moi. C'est pas une affaire, ça. Mais il faut connaître, il faut dire la parole de Dieu et l'apprendre par cœur. Il y a des passages extraordinaires à apprendre par cœur. C'est vrai, le premier chapitre de toute la Bible, par exemple, la création. C'est facile à apprendre par cœur. C'est facile d'apprendre par cœur le premier chapitre, versets 1 à 17 de l'évangile de Saint Jean. Dans le principe, c'était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Oui. Mais tu crois que les gens handicapés, ils n'ont pas la mémoire, ils le font avec les gestes, ils accompagnent par les gestes. C'est grâce aux gestes.
Ils comprennent.
Un jour, c'était notamment c'est des Mongoliens, donc ils parlaient à peine. Alors, c'est Nicolas. Si Nicolas, tu viens avec moi, c'est toi qui as fait le serment. J'ai entendu l'évangile là. Il dit c'était l'aveugle de Jéricho. T'as vu l'aveugle de Jéricho, ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, prends pitié de moi. Alors Nicolas il était là dans mes bras. Allez, dis-le toi maintenant. Seigneur, prends pitié de moi. Tout le monde pleurait. Il fait trois fois comme ça. Mais tu comprends que c'est pas pareil que de dire une parole de Dieu, une écriture, en l'or, c'est ça la mémoire. Ça, c'est carrément. Hein. Ça va être incroyable, parce que ça guérit. Hein. Si vous voulez chercher des méthodes de guérison, pas besoin d'être psychiatre ou faire des guérisons, je ne sais pas quoi, bioénergétique et compagnie, chromosynthèse et tout ça. Énergético, je sais pas quoi, ne vous faites pas déboutonner les chakras, ça sert à rien, je veux dire, après c'est moi qui récupère pour dégager les fréquences métaphysiques correspondantes, donc, alors, je récupère 5 ans après, d'accord, mais enfin, pas drôle, il faut au moins 2 ans de travail, alors, donc non, la mémorisation de la parole de Dieu par cœur, par cœur, par cœur, c'est quand même très important, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Bon, alors du coup, et puis à la place de l'imagination, vous remplacez les points de vue de l'imagination par l'oreille. Voilà, à mon avis, les choses qu'on doit faire. Vous avez, j'espère, chacun d'entre vous entendu ce que j'ai dit. Et donc, choisis peut-être quelque chose à faire du pack. Hein. Mais je crois qu'il faut le faire. Il faut essayer de le faire sérieusement. Quoi, hein. Voilà. Si vous voulez bien, nous allons reprendre dans 10 minutes. Et nous allons continuer notre travail sur les degrés de l'amour. Nous devons faire aujourd'hui le 16e, 17e, 18e et 19e degré de l'amour entre l'homme et la femme.